Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes, avec des hommes, médecins, praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Françoise Barré-Sinoussi, bonjour.
Bonjour.
Françoise Barré-Sinoussi, vous êtes prix Nobel de médecine 2008, présidente de l'association SIDAction, présidente d'honneur du réseau international des instituts Pasteur. Une vie dédiée à la recherche sur les paillasses des laboratoires, sur le terrain, de Phnom Penh à Bangui, à la tribune de conférences internationales. Et puis plus tard, quand est venu le temps des honneurs, sous les ordres de palais, de ministères, Françoise Barré-Sinoussi, de ces différents cadres, lequel vous convient le mieux ?
Celui du laboratoire, sans aucun doute, forcément. Il y a toujours un petit regret de l'époque, j'allais dire... Avant le VIH-Sida, où je pouvais travailler par moi-même, de mes propres mains, dans le laboratoire. Après, ça a été un petit peu terminé.
Qu'est-ce qui a changé, justement, le fait que vous passiez du laboratoire à d'autres fonctions moins concrètes, moins pratiques?
Ce qui a changé, c'est d'une part beaucoup de sollicitations, d'une part d'invitations, beaucoup de demandes de crédits à faire, de demandes pour essayer d'avoir des jeunes chercheurs. Donc beaucoup d'administration de la recherche, si je puis dire, qui ne permettent plus de travailler par soi-même à la paillasse et de laisser un petit peu de passer la main auprès des plus jeunes. J'ai essayé d'ailleurs à un moment. J'ai essayé et puis c'est mon équipe qui m'a dit non, stop, parce que vous nous désorganisez tout. Et ils avaient totalement raison.
Alors ce goût pour la biologie, l'observation, l'expérimentation, est-ce que vous savez d'où vient cette curiosité scientifique, Françoise Barré-Sinoussi, vous, fille unique, née au cœur du 19e arrondissement, j'oserais dire que ça s'entend dans votre façon de parler, issu d'un milieu plutôt modeste.
C'est un peu compliqué comme question, parce que on sait pas trop, à vrai dire. Ce que je me souviens simplement, lorsque j'étais enfant, j'adorais passer du temps dans la nature pendant les vacances à observer justement les animaux, à observer la nature, à observer le vivant. Et c'était quelque chose qui me passionnait. Observer deux animaux et voir qu'il y en avait un, par exemple, qui marchait moins vite que l'autre, me poser la question pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ça, très jeune, dès l'enfance, c'était quelque chose de présent chez moi. Et puis le constat aussi à l'école, au lycée en particulier, que tout ce qui était scientifique, ça marchait très très bien.
C'était facile pour vous ?
Tout était facile. Alors que le reste, tout ce qui était français, philosophie, etc. et langue étrangère, c'était une catastrophe. Donc il y avait quelque chose qui m'attirait sans savoir réellement pourquoi, jusqu'à la fin du lycée, où là, j'ai pris la décision d'aller vers la faculté des sciences.
Alors, dans votre livre, hein, Pour un monde sans sida, c'est un livre d'entretien écrit avec François Bouvier, publié aux éditions Albin Michel, autobiographie, exposé scientifique dense aussi. Hein. Je me suis appuyée sur ce livre pour préparer cette émission. On trouve une expression dans laquelle vous reconnaissez Françoise Barré-Sinoussi lorsque les patients, la communauté des patients, reconnaissent en vous un chercheur activiste. Justement, qu'est-ce qui vous touche dans cette association chercheur activiste?
Ce qui me touche, c'est parce que un chercheur, il essaye de faire des découvertes, il essaye de développer des outils au bénéfice justement des patients quand on est chercheur dans le domaine biomédical, et que lorsque ces outils sont pas disponibles justement pour les patients, le chercheur, il doit aussi se poser des questions, se dire pourquoi c'est inadmissible quelque part, et c'est là que son côté activiste doit se développer justement pour que les outils auxquels il a contribué puissent être accessibles à tous. C'est avec et pour les patients que l'on essaye de développer des recherches et d'avoir des réponses. Donc si derrière ça suit pas, forcément on se doit, à mon sens, de devenir activiste. Et c'est un petit peu comme ça que je suis devenu, je crois, un peu naturellement, mais c'est leur jugement à eux, parce que moi, je ne sais pas si je suis réellement une activiste.
En tout cas, ils vous ont désigné comme ça. On va effectuer au cours de cette émission plusieurs retours en arrière. Françoise Barré-Sinoussi, très tôt dans votre parcours de chercheur, des rencontres décisives, l'engagement qui s'est révélé celui de toute une vie, la lutte contre le sida. Nous sommes en avril 1984, sur la deuxième chaîne de la télévision publique, le journal de 20h.
4000 cas aux États-Unis, 300 cas en Europe. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort, et dont depuis 4 ans, on recherchait activement la cause sans la trouver, jusqu'à hier soir. Le secrétaire d'État à la Santé des États-Unis, Margaret Sackler, annonçait la nouvelle. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. Un virus qui ressemble étrangement à celui qu'a isolé, voici un an, une équipe de l'Institut Pasteur à laquelle l'Amérique rend hommage aujourd'hui. De fait, les docteurs Montagnier, Sherman, Barré-Sinoussi ont découvert l'an passé que le sang des malades présentant des signes précurseurs de sida au niveau des ganglions contient presque toujours un virus. Ce qui semble nouveau, c'est que le virus américain identifié cette semaine aux États-Unis et le virus français découvert voici un an sont vraisemblablement un seul et même virus. Si cela se confirme, les progrès dans la lutte contre la maladie pourront maintenant aller très vite en coopération entre les États-Unis et l'Institut Pasteur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des éléments de diagnostic, qu'on va pouvoir rechercher si des personnes sont porteurs ou non de ce virus. Deuxièmement, on va pouvoir rechercher dans les substituts du sang, par exemple, si le virus est présent ou pas. C'est-à-dire éviter tout ce qui s'est passé maintenant pour les cas de sida chez les hémophiles, par exemple, ou chez les polytransfusés. Ensuite, la prévention, c'est-à-dire quand on connaît la cause, quand on connaît un virus, eh bien on va en préparer un vaccin. Donc préparer un vaccin, ça veut dire commencer à inactiver ce virus et à rechercher le pouvoir protecteur de ce virus.
Les explications de la journaliste Martine Alain Regnault sur Antenne 2 en 1984. Recherche, annonce aux États-Unis après vos propres découvertes à l'Institut Pasteur. On peut faire beaucoup de commentaires après ce reportage, même des explications, des rectifications, parce que depuis, les choses ont pas mal changé, la perception des choses. En tout cas, une première chose, une voix qu'on entend pendant ce reportage, Françoise Barré-Sinoussi, cette voix, c'est celle du professeur Jean-Claude Sherman.
Complètement. J'ai bien sûr reconnu Jean-Claude Sherman, avec qui j'ai commencé ma carrière à la fin des années 70, début 1971, justement sur cette fameuse famille de virus que sont les rétrovirus. Donc c'est vrai que pour moi, Jean-Claude Sherman, ça représente la personne qui m'a formé au tout début de ma carrière, de par son dynamisme, son enthousiasme, sa passion. Bon, on dit souvent que c'est transmissible, je pense que c'est lui qui m'a transmis effectivement cette passion.
Alors cette équipe autour de Jean-Claude Sherman, on entend aussi déjà cette affaire entre les États-Unis et la France, votre propre découverte, celle de l'équipe au sein de laquelle vous travaillez, le travail mené de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez peut-être un commentaire sur ces événements, cette concurrence. Est-ce qu'on parlait à l'époque d'une sorte de course aux résultats ou d'une recherche conjointe? Comment ça se passait?
Premièrement, à cette époque-là, 84, on parlait pas de compétitivité ou de course conjointe. Je crois que il y avait l'identification du virus. Je rappelle que quand même, justement, dès 83, nous avions contacté, c'est Jean-Claude Sherman, je crois, et Luc Montagnier avait contacté le professeur Gallo aux États-Unis, justement, pour avoir des réactifs pour comparer le virus que nous venions d'isoler avec le virus HTLV que lui avait identifié dans son laboratoire comme étant associé à certaines formes de leucémie précédemment. Donc il n'y avait pas encore de soucis, de compétition ou de conflit entre les deux équipes, loin de là.
En tout cas, ce qu'on peut voir 1984, si quelque chose a changé depuis, c'est le ton employé, la façon d'aborder la maladie, les catégories de malades qui sont désignées de façon, aujourd'hui on pourrait dire, avec une forme de stigmatisation. Beaucoup de choses qu'on entendait hein, jusque dans les années 90 ont changé, ça dépend bien sûr des régions du monde. Mais est-ce que Françoise Barécine aussi, on perçoit justement avec le recul l'évolution de l'état des connaissances, ça c'est certain, mais aussi de la perception de la maladie?
La perception de la maladie, elle a à la fois énormément changé, mais elle a aussi, et on reste toujours quand même sur de la stigmatisation et la discrimination des personnes concernées par cette infection. Alors là, j'utilise des mots qui n'étaient peut-être pas utilisés à l'époque, mais c'est un fait. Les personnes les plus concernées à l'époque étaient déjà la population gay, étaient déjà les hémophiles. Bon, c'est une population qui n'est plus touchée, Dieu merci. Les héroïnomanes. Bon, les usagers de drogue sont toujours dans certains pays une population qui est touchée. Je rappelle aussi qu'on parlait de la maladie des 4H.
Haïtiens qui rajoutaient ce dernier H.
Haïtiens qui étaient rajoutés justement aux hémophiles, aux héroïnomanes et aux homosexuels, sans réellement de fondement, je dirais à l'époque. Et ça a été à l'origine finalement de cette discrimination de ces populations, et que finalement, quand on regarde plus de 30 ans plus tard, ça reste très présent. Alors que, et on semble oublier le quatrième âge qui n'aurait pas dû être oublié à l'époque, puisqu'on savait déjà quand même dès 84 qu'il y avait des femmes qui transmettaient le virus à leur bébé. Donc on avait déjà une notion finalement de transmission hétérosexuelle de ce virus, qui a été mis tout de suite quelque part entre parenthèses tout au début des années 80. Je dis souvent d'ailleurs, quand je fais des conférences aux jeunes, attention aux propos que l'on peut avoir à une certaine époque, parce que ça peut avoir des conséquences pendant plusieurs décennies, et c'est un bel exemple justement dans ce domaine du VIH-SIDA, les propos de l'époque, les populations cibles qui restent malgré tout encore aujourd'hui très rejetées par une certaine proportion de la société.
Tout à l'heure, vous disiez votre rencontre avec le professeur Sherman, ce travail sur les rétrovirus. Si on revient à ce point précis d'un point de vue scientifique, c'est compliqué d'expliquer, mais si on voulait expliquer aux auditeurs pourquoi on dit rétrovirus et pas virus, qu'est-ce que c'est ce champ particulier de la recherche ?
Bah, rétro, je pense que tout le monde sait que c'est un peu ancien ou à l'inverse. On appelle ces virus rétrovirus parce qu'ils ont un matériel génétique qu'il faut transformer en ADN pour que ce virus puisse se mettre dans le matériel génétique de nos cellules. Donc il fait quelque chose qui va à l'inverse des autres virus, de copier l'ARN en ADN, alors qu'à l'époque où on les a découverts, c'était toujours dans le sens ADN vers ARN. Voilà, le mot rétrovirus, il vient de là. Après, il est lié aussi à l'enzyme qui est nécessaire à leur multiplication, qu'on appelle la reverse transcriptase, donc rétrotranscriptase en anglais, qui permet justement cette copie ARN-ADN. Voilà l'explication assez simple de la définition des rétrovirus.
Alors, des rencontres décisives, ce champ de recherche particulier, et puis l'expérience. Vous avez dit tout à l'heure l'abandon, pas véritablement, mais quand même de la paillasse pour travailler en équipe. Et ce travail en équipe, eh bien, il est très important.
RFI.
Partage d'expérience, transmission. Nous sommes en ligne avec vous, docteur Elisabeth Menu. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Votre laboratoire est situé à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré Françoise Barécine-Houssy?
Alors, j'ai rencontré Françoise en 1994, lorsque je suis rentrée de Boston, où j'avais fait mon stage postdoctoral. Et donc, à l'époque, je rentrais dans mon ancien laboratoire, qui était dirigé par Gérard Chaouat. Et Gérard m'a proposé de reprendre un sujet, en fait, qu'il avait commencé à développer avec Françoise et qui s'intéressait justement à la transmission mère-enfant du VIH1, et mais plus particulièrement à sa transmission in utero, donc au niveau du placenta. Or, pour faire les expériences, il fallait un laboratoire de sécurité, de niveau 3, ce que nous n'avions pas à l'époque. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Françoise pour faire quelques manips au début, et puis de quelques manips je suis restée pendant 20 ans dans le laboratoire de Françoise.
Beaucoup de manips.
Beaucoup de manips, et ça m'a valu le surnom de parasite aussi, parce que je me suis un petit peu incrustée toutes ces années. Et puis je suis partie en fait de Pasteur quand Françoise a pris sa retraite. Donc maintenant je suis plus à Pasteur, je suis au CEA à Fontenay-aux-Roses, mais j'étais à Pasteur là jusqu'en 2016 quoi.
Et quels adjectifs voilà. vous viennent à l'esprit lorsque vous évoquez cette collaboration, ce travail d'équipe, mais aussi la personnalité de Françoise Barré-Sinoussi, docteur Menu?
Alors, un des adjectifs, c'est l'intensité, enfin c'est plutôt un nom, c'est l'intensité en fait. Ça a été intense toutes ces années, parce que on a énormément travaillé, bien évidemment. Ça a été intense dans les relations avec Françoise et avec tous les gens autour, les rencontres qu'on a pu faire, les collaborations dans les pays en voie de développement, comme bon, on a beaucoup travaillé avec le Cameroun notamment, mais aussi avec l'Asie. Et puis travailler avec Françoise, c'est pas de tout repos, hein. Vous avez dû le comprendre, je pense, de par ce qu'elle a pu vous dire, mais voilà, Françoise est très exigeante pour elle, mais aussi pas mal pour les gens qui travaillent avec elle. Et puis pour Françoise, faire de la science, c'est dédier sa vie en fait à la science. Hein. C'est et l'objectif principal, c'est de penser aux patients. Donc c'est pas faire de la science pour faire de la science, mais c'est faire de la science pour avancer les choses, faire avancer les choses. Et du coup, ça laisse peu de temps pour une vie à côté, mais on y arrive quand même. Mais il fallait se battre pour. Pour notamment prendre des vacances, par exemple, ça a toujours été...
Et vous étiez impressionnée?
Alors au début, oui, beaucoup. Après, un petit peu moins. Mais parce qu'on apprend à connaître Françoise et qu'on voit que sous ses aspects parfois un peu, on pouvait dire dur, hein, qui n'était pas toujours une rigueur très importante, mais finalement c'est quelqu'un qui est profondément humaine. Et du coup, on est toujours impressionné, mais disons qu'on l'est moins avec le temps, on va dire. Mais je sais que tous les petits jeunes qui arrivaient au labo étaient assez impressionnés et terrorisés, même parfois.
Merci beaucoup. On va avoir quelques explications après ça. Docteur Elisabeth Menu, hein, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez envie d'ajouter quelque chose, peut-être pour votre défense, Françoise Barré-Sinoussi. Vous faites peur aux jeunes?
Je sais pas si je fais réellement peur aux jeunes. Je pense que bon, ils sont peut-être un petit peu impressionnés. C'est vrai que je sais que je suis exigeante. Comme l'a dit Elisabeth, je suis exigeante avec moi-même et je suis aussi pour les autres, c'est vrai.
Mais on est impressionné par quoi? On est impressionné par la masse de connaissances, par la capacité de travail, par le don de soi à la science. Qu'est-ce qui impressionne les gens,
les chercheurs? Ça, je sais pas. Il faudrait leur demander à eux qu'est-ce qui les impressionne le plus. J'en sais strictement rien. Je pense que c'est mon exigence avant tout. C'est vrai que je peux être un petit peu dur. C'est vrai que je demande beaucoup aux gens qui m'entourent. Parce que, Elisabeth l'a très bien dit, pour moi, si on choisit ce métier, j'ai du mal à dire le mot métier, parce que pour moi c'est envie, une passion quelque part. On est là pour donner aux autres, pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour faire avancer le plus vite possible le développement d'outils dont les patients ont besoin. C'est un sacerdoce quelque part, et c'est vrai que je me souviens avoir dit parfois aux jeunes qui arrivaient au laboratoire, vous êtes bien sûr de votre choix, parce que pour moi choisir de faire de la recherche biomédicale, c'est quelque part pour une fille comme si elle rentrait au couvent.
c'est qu'il y a quelque chose d'angoissant.
Alors c'est vrai, voilà,
envie,
je pense qu'à travers des paroles comme ça, même si c'est, je le disais un petit peu sur le ton de la plaisanterie, ça peut angoisser des jeunes, et c'est peut-être une des explications à leurs angoisses à mon contact. Mais je pense aussi, et comme l'a dit Elisabeth, que les gens qui commencent à me connaître savent très bien que quelque part c'est assez superficiel, et quand on me connaît, au contraire, pour moi l'ambiance de la collaboration, j'ai toujours considéré mon laboratoire comme ma famille.
Avec dans ce cadre, hein, justement, vous disiez passion, dans un même cadre, l'Institut Pasteur, vous dites « je suis devenue pasteurienne ». Qu'est-ce que ça veut dire, 130 ans après la création de l'Institut Pasteur, « je suis pasteurienne » ?
Ah bon, moi, Louis Pasteur, il était très en avance, il avait une vision qui est toujours extrêmement d'actualité aujourd'hui. Pour Louis Pasteur, justement, être chercheur, c'était délivrer des outils il appelait ça les applications de la recherche au bénéfice des populations, quelles qu'elles soient dans le monde. Et c'est pour cela que finalement, après avoir créé l'Institut Pasteur à Paris, à la fin des années 1800, il a créé un deuxième Institut Pasteur à Saïgon. À l'époque, il avait envoyé Calmette pour diriger cet institut. Et cela, finalement, ce côté humaniste, c'est quelque chose que moi j'ai découvert à travers la recherche sur le VIH-Sida. Même si les années précédentes je travaillais déjà à Pasteur, je n'avais pas bien intégré la vision, l'esprit pasteurien, la vision qu'avait Louis Pasteur au moment de la création de l'Institut. Et cela, je l'ai compris avec le Sida, je l'ai compris en allant en Afrique tout d'abord, les besoins immenses qu'il y avait dans ces pays, et lui, il les avait déjà perçus à son époque comme étant quelque chose qui était notre devoir, quelque part, de donner aux autres, de donner aux populations les plus démunies dans les pays pauvres.
Alors, on va revenir à votre secteur de recherche en particulier, cette lutte contre le sida, 1983, ce moment de la découverte du virus, ça ressemble à un scénario, en tout cas ça a été porté à l'écran avec ce cadre du laboratoire à l'Institut Pasteur, des accessoires, le microscope électronique, une distribution avec vous, hein, l'équipe de Pasteur, le clinicien Willy Rosenbaum, ce clinicien qui vous approche, et justement cette rencontre directe, certainement pas la première, mais en tout cas, les malades, le champ de la recherche, c'est quelque chose d'absolument fondamental.
Oui, la rencontre avec Willy, avec Françoise Brun-Vézinet, avec les cliniciens, ça a été quelque chose de déterminant dans cette découverte du virus responsable du sida. C'est à travers les discussions avec eux et ensemble, réellement, qu'on a défini les approches pour essayer d'identifier le virus responsable de la maladie. Pour moi, ça a été aussi quelque chose de nouveau, de comprendre combien cet échange avec des cliniciens et un peu plus tard avec des patients pouvait nous alimenter, nous, les chercheurs, à essayer de poser de nouvelles questions, d'avoir de nouvelles approches et d'essayer d'aller le plus vite possible, justement, en travaillant avec et pour les patients. Et ça, c'est cette rencontre avec les cliniciens, pour moi, depuis 83 jusqu'à ma retraite et encore maintenant, j'ai jamais imaginé une seule minute travailler sans avoir ce contact et cette collaboration très étroite avec nos collègues cliniciens.
Alors, la découverte, je dis là en insistant sur ce mot, parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. Ça a même été porté à l'écran à un téléfilm américain qu'on a retrouvé, s'appelle « Les soldats de l'espérance ». Et c'est la comédienne Nathalie Baye qui incarne votre rôle, Françoise Barré-Sinoussi, avec cette scène, hein, la conversation téléphonique entre l'équipe de Pasteur en France et les États-Unis.
Ce que nous avons découvert est un tout nouveau rétrovirus que nous croyons être le virus du sida.
Ah, mais c'est fascinant! J'ai rédigé un rapport, moi aussi, pour Science. J'y démontre que mon virus, le HTLV, est le plus susceptible d'être le virus du sida.
Écoute, pourquoi ne m'envoies-tu pas ton rapport?
Je verrai à ce qu'il soit publié en même temps que le mien. En fait, je rédigerai le sommaire pour être sûr qu'il sera publié. Et envoie-moi des échantillons du virus aussi, par avion.
Je vérifierai vos résultats.
Bien sûr.
Au revoir.
Il veut lire notre papier. Il demande des échantillons de notre rétrovirus.
Ayant travaillé avec lui, très honnêtement...
Françoise, je vous en supplie. Le docteur Gallo est un scientifique éminent. Envoyez-lui tout ce qu'il demande.
Par mesure de sécurité, est-ce qu'on ne pourrait pas faire tester notre virus par un laboratoire indépendant?
Absolument. Tout de suite.
Je vais appeler Don au CDC, lui demander de nous envoyer des échantillons pour faire une analyse aveugle afin de prouver que c'est le virus du sida.
Vous avez raison.
On vient de m'appeler de Paris. Ils ont découvert le virus du sida.
Bravo!
Les soldats de l'espérance, découverte du virus. Comment vous avez accueilli Françoise Barré-Sinoussi, cette notoriété, on l'a compris, hein, ça dépasse très rapidement le strict cadre de la famille scientifique.
Notoriété, je dirais c'est un bien grand mot, parce que personnellement, j'ai jamais ressenti réellement une notoriété. Je pense que pour moi, le plus important, c'était de rester très lié à la communauté scientifique et médicale. Plutôt, d'ailleurs, je préfère dire la communauté VIH-SIDA dans son ensemble. Alors, c'est sûr qu'au sein de cette communauté, je suis connu, c'est vrai, mais c'est surtout, je me sens bien. Je me sens réellement chez moi. C'est pour ça aussi que je me sens très bien à SIDAction, parce que c'est une communauté du tout ensemble depuis le départ. Depuis les années 80, c'est une communauté qui se bat avec le même objectif. Et c'est ça qui nous rapproche les uns et les autres. La notoriété, pour moi, c'est toujours très superficiel, à vrai dire.
En tout cas, il y a un moment dans cette étape vers la notoriété, ça on peut pas le nier. En tout cas, Françoise Barré-Sinoussi, c'est octobre 2008, l'annonce du prix Nobel de médecine. Et ce prix va vous être remis au mois de décembre.
Dear laureates, on behalf of the Nobel Assembly at the Karolinska Institute, it is my privilege and pleasure to express our warmest congratulations and our deepest admiration as I now ask you to step forward to receive your prize. From the hands of His Majesty the King.
Alors cette remise du prix par le roi de Suède, d'ailleurs dans votre livre Pour un monde sans sida, vous parlez d'un tourbillon d'émotions, on a l'impression que vous êtes spectatrice de ce qui se passe, pas directement dedans, comme un petit peu dépassée, je dirais trivialement, par tout ce tralala.
À vrai dire, même encore aujourd'hui, 10 ans après, je me pose des fois la question si c'est vraiment j'ai vécu ce moment-là ou pas. Pour moi, ça reste une semaine un peu magique et un événement qui est comme un rêve finalement. Et je me dis des fois, mais je l'ai vraiment vécu, oui ou non. Alors les autres me réveillent, bien sûr, à travers les sollicitations que je reçois quotidiennement, mais à vrai dire, j'ai un rêve, moi, c'est d'y retourner à Stockholm. Mais d'y retourner dans un autre contexte, d'y retourner en tant, cette fois-ci, spectateur, justement, parce que j'ai pas eu l'impression de vivre suffisamment chaque instant
de
cet honneur qui m'a été fait. Et que je me dis, ben, si je vais assister à la remise d'un Nobel à quelqu'un d'autre, je vais pouvoir revoir et vivre réellement chaque minute de ces cérémonies qui sont absolument fabuleuses.
Alors, les années 90 qu'on évoquait tout à l'heure à travers cet extrait de film, on voit d'ailleurs à cette occasion comment la maladie, le sida, prend une dimension véritablement sociale et culturelle. Et un autre retour, c'est en 1993, c'est cette année-là que sort Philadelphia de Jonathan Demme. On y parle pour la première fois dans un film grand public, c'est une production hollywoodienne. On parle de sida, d'homosexualité, d'homophobie aussi. Et ça vaut d'ailleurs l'Oscar de la meilleure chanson à Bruce Springsteen.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip a ski.
Bruce Springsteen en 1993, on vous retrouve Françoise Barré-Sinoussi dans Priorité Santé pour poursuivre ensemble l'évocation de votre parcours de chercheur activiste. On évoquait le cinéma, dès les années 90, le cinéma s'empare du sujet. À partir de quand, Françoise Barré-Sinoussi, avez-vous perçu cette spécificité de la maladie, du sida, portée au-delà du cadre sanitaire, ce que la maladie portait en elle de curiosité, mais aussi de discrimination, d'exclusion, voire d'irrationnel?
Je crois relativement vite, hein, dès la moitié des années 80, je dirais que c'est clair qu'on avait déjà la prise de conscience de ce rejet de certaines populations, c'est clair. Plus la situation sur le continent africain que j'ai découvert moi-même en 1985 en allant à une réunion OMS à Bangui. Avant la fin des années 80, on avait déjà ce sentiment. Et puis et chacun d'entre nous, on commençait à se faire à se lier à des personnes touchées par la maladie, de près ou de plus loin, de devenir amis avec eux et de vivre avec eux ce qu'ils subissaient aussi comme rejet par la société. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on commence à se rebeller aussi, parce qu'on comprend pas bien dans quel monde on vit et comment il peut y avoir autant d'intolérance.
Alors ce travail de terrain, la rencontre des autres, mais aussi la rencontre des autres plus loin, vous l'avez dit, l'Afrique, il y a eu le Vietnam, il y a eu le Cambodge, et donc ce continent africain où l'épidémie prend une dimension effroyable, les années 85-86, on commence alors à parler véritablement du sida en Afrique. Françoise Barré-Sinoussi, vous vous souvenez en quels termes?
À cette époque-là, bon, il y avait beaucoup d'hésitation des gouvernements africains en particulier d'évoquer le sida. Parce que, bien sûr, ils avaient très peur qu'une fois de plus, on estime que le berceau de toutes les maladies, c'est l'Afrique, qui est un rejet du continent africain. On pouvait les comprendre d'ailleurs. Mais je me souviens très bien la conférence sur le sida à Paris, la deuxième après Atlanta en 1986, où pour la première fois, il y a un médecin africain, Kapita, qui est venu à Paris, qui a pris la parole en plénière en faisant un appel en disant les gens meurent chez nous et meurent à tout va. Et il a fallu qu'on discute après avec les autorités de son pays, parce que s'il retournait dans son pays, il risquait d'avoir de gros soucis. Donc on était quand même dans une situation
de déni
de la part des gouvernements et des gouvernants d'Afrique à l'époque. Et il a fallu attendre la fin des années 80 pour que l'évidence soit sous les yeux de tout le monde et qu'il fallait effectivement se lever les manches et y aller tous.
Et même ça a tardé longtemps, vous le soulignez, hein, sida, maladie politique. En l'an 2000, après avoir cédé le pouvoir à Thabo Mbeki, Nelson Mandela, l'ex-président sud-africain, s'exprime lors de la conférence internationale sur le sida d'Durban. À cette époque, il y a encore des sceptiques, au nombre duquel le président Thabo Mbeki. Ils remettent en cause la causalité, la responsabilité du virus, avec d'ailleurs la caution de certains scientifiques, Françoise Barré-Sinoussi. Alors que l'on savait, vous aviez prouvé, comment expliquer qu'il y avait encore des scientifiques pour nier, on va pas dire l'évidence, parce que c'était pas une évidence, mais pour nier la réalité scientifique?
Je pense qu'il y a surtout, c'est l'inverse, c'est quelques scientifiques qui sont à l'origine justement de la position du président Mbeki et de son, quelques personnes de son gouvernement, en particulier la ministre de la Santé, c'est eux qui sont à l'origine de cela.
D'une manipulation.
D'une manipulation, ou plutôt je dirais peut-être parce que ça les arrangeait bien, les gouvernants d'Afrique du Sud à l'époque. Mais l'équipe, le Peter Duisberg et quelques quelques-uns de ses disciples, c'est eux qui ont lancé cette idée que le virus n'existait pas. Alors moi j'ai une explication qui vaut ce qui vaut, parce que Peter Duesberg est un rétrovirologue, c'est-à-dire une personne qui a travaillé sur les rétrovirus toute sa vie. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, il était connu comme un expert dans le domaine des rétrovirus. Il a cherché pendant des années un rétrovirus humain, il n'a pas réussi à en trouver, et je crois qu'il s'est mis dans la tête lui-même que si lui, Peter Duesberg, n'en avait pas trouvé un, les rétrovirus humains n'existaient pas.
L'ego.
Voilà. L'ego. Et tout est parti, à mon sens, de là, mais bon, je me trompe peut-être. C'est un petit peu ce groupe de personnes qui ont lancé ce mouvement ridicule au niveau international et qui ont, à mon sens, quand même été à l'origine de beaucoup l'épidémie d'une grande ampleur en Afrique du Sud, où aujourd'hui les choses ont bien sûr changé, mais il est difficile par les gouvernants de ce pays, par les médecins, de contrôler aujourd'hui cette épidémie, même si aujourd'hui, Dieu merci, ils ont accès aux médicaments, ils ont accès aux antiréviraux, ils ont accès à la prévention, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la conférence de Durban dont vous parlez, ou de façon sporadique.
Alors justement, 2000 Durban, cette forme de révisionnisme scientifique, et l'intervention d'un seul homme va clouer au mur à Durban ces révisionnistes, et cette voix qui sonne le retour à la raison, c'est celle de Nelson Mandela.
Les citoyens ordinaires du continent et du monde, et en particulier les pauvres qui sur notre continent portent un fardeau disproportionné de ce fléau, diraient, si quelqu'un se souciait de leur demander leur avis, évidemment, qu'ils souhaitent que le différend au sujet de la primauté de la politique ou de la science soit mis en veilleuse et que nous répondions aux besoins et aux préoccupations de ceux qui souffrent et qui meurent.
Le grand homme, Françoise Barré-Sinoussi, la déclaration de Durban issue de cette conférence, eh bien, on apprend en lisant votre livre qu'elle est encore aujourd'hui affichée dans votre bureau, hein, depuis plus de 18 ans. Pourquoi ?
Ah, parce que ça a été un grand moment. Ça a été la fin de cette conférence avec Nelson Mandela prenant la parole, allant à l'inverse des propos du président Mbeki, avec cette population africaine dans la salle où tout le monde s'est levé. Il a d'ailleurs pas pu prendre la parole pendant très longtemps parce que tout le monde l'appelait, chantait, dansait, et ses propos à lui-même remettant les choses en ordre, ça a été un grand, grand, grand moment pour nous tous.
Et Mandela qui a dédié les dernières années de sa vie, une bonne partie de son énergie justement à cette lutte contre le sida, c'était quelque chose de très important, donner un visage incontestable à l'engagement justement.
Tout à fait, c'était un homme qui était toute sa vie un engagé, mais effectivement son engagement envers le sida pendant toutes les dernières années de sa vie, ici il y a largement contribué. Il venait très souvent en conférence internationale et il avait des propos tout à fait engagés vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis des populations les plus touchées. Et ça, c'était un homme absolument qu'on gardera tous en mémoire.
Alors Françoise Barré-Sinoussi, justement cet élément très important de l'implication dans la communauté de figures qui portent cette voix de la lutte contre le sida, et c'est depuis pratiquement les débuts, on l'a souligné, mais c'est essentiel, un des éléments les plus importants d'être au cœur de la communauté.
Oui, c'est la communauté. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Pour moi, la communauté, c'est critique dans l'évolution de cette maladie. Je veux dire, si aujourd'hui on a accès, 60% des personnes ont accès aux médicaments dans le monde, c'est grâce justement à cet esprit communautaire. C'est grâce à la lutte justement des activistes qui se sont battus d'abord pour eux-mêmes, pour certains d'entre eux, pour vivre tout simplement. C'était la lutte pour la vie. C'était la lutte contre les compagnies pharmaceutiques qui vendaient des médicaments à des prix exorbitants et impossible d'accès pour les pays les plus pauvres. C'était aussi la lutte contre les gouvernements pour qu'ils fassent des efforts, et ça a abouti justement à la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ça a été à l'origine de d'UNITED et du programme PEPFAR de Bush aux États-Unis. Donc c'est grâce justement à cette pression communautaire
de trouver des financements internationaux
de trouver
pour
des
la
financements
lutte.
Internationaux pour justement permettre l'accès à la prévention, aux soins et aux traitements dans les pays les plus pauvres, qu'aujourd'hui on a, comme je disais, 60% de personnes sous traitement. C'est pas assez. C'est pour ça que cette lutte, il faut la continuer, qu'on en est prêt à la continuer tous ensemble.
On est sur l'objectif des 90.
Je dirais, moi, l'objectif des 90, je préfère ne pas l'évoquer parce qu'il restera 10, mm-hmm. et que ces 10 suffiront pour maintenir l'épidémie. Mm. Donc ça suffit pas. Mm. 90. Il faut aller plus loin. Il faut aller au maximum sur l'accès à la prévention et aux soins pour dépistage et aux soins pour tous. Et il faut en même temps poursuivre la recherche. Il faut justement, tout à l'heure, dans un des interviews de Jean-Claude Sherman, on parlait de vaccin. On n'a toujours pas de vaccin aujourd'hui. Ce vaccin, il viendra de la recherche. Donc, il faut en même temps soutenir la recherche. Il faut de nouveaux traitements, moins lourds, moins coûteux, moins plus accessibles à tous. Un traitement que les patients pourraient arrêter, par exemple. Ils le souhaitent. Alors, s'ils le souhaitent, les chercheurs doivent y répondre.
Il faut les écouter. On va revenir sur ce point de la recherche en conclusion, mais je voudrais qu'on revienne à cette implication communautaire, le travail de terrain, celui des associations, des militants, des patients, qui ont aussi des visages. C'est ce qu'expliquait au micro de notre émission, au mois de juin 2018, le docteur Bintou Dembélé, directrice de l'association Arcade Sida Mali.
Arcade Sida est une association communautaire. Ça veut dire que c'est une association qui implique au plus haut niveau de nos instances les personnes concernées. Ces personnes concernées, ce sont là nos bénéficiaires. La démarche que nous adoptons, c'est avec les personnes que nous faisons nos activités. Nous avons développé la stratégie de pééducation, la stratégie des médiateurs. Ce sont tous des personnes qui sont concernées, qui sont au devant de la scène. Les personnes sont impliquées. Les personnes sont intégrées au cœur de l'action et c'est ça la démarche communautaire qui nous anime au sein de coalition et c'est ce que nous partageons tous ensemble.
Ça permet de comprendre que ces personnes qui sont directement concernées, ce sont des fils, des sœurs, des mères, des voisins et pas simplement des malades. On est tous ensemble et on est tous finalement dans la même lutte commune. C'est pas des gens à part.
Non. C'est parce que nous sommes tous animés du même sentiment. Nous avons tous ce sentiment de partage là. La lutte contre le sida, c'est notre affaire. Aujourd'hui, il est indispensable qu'on ait cette fibre militante-là, cet engagement-là, pour participer à nos activités.
Docteur Bintou Dembélé, administratrice de Coalition Plus à l'occasion des 10 ans de l'union de ces 60 associations de lutte contre le sida, pour bien comprendre justement cette implication dans la communauté. Est-ce qu'on peut dire, Françoise Barré-Sinoussi, que avant le sida, jamais les chercheurs n'avaient autant expérimenter, rechercher, essayer de trouver en intégrant les modes de vie, les pratiques, les usages des patients et de cette communauté.
Ah non, pour moi, ça a été le premier exemple justement d'une interaction extrêmement forte entre chercheurs, médecins, personnel de santé et patients ou représentants des personnes concernées, comme il vient d'être dit. C'est le premier exemple.
Pour donner une image, pour comprendre bien ce que ça veut dire, Françoise Barré-Sinoussi, ça veut dire qu'il y a des essais qui correspondent au mode de vie. On pense par exemple à la prophylaxie pré-exposition. Là, c'est vraiment collé aux attentes des personnes qui sont éventuellement plus, on va dire, à risque que d'autres.
Tout à fait, et non seulement de ça, je pense que là, dans l'exemple de la PrEP, de la prophylaxie pré-exposition, il y a eu même le milieu associatif qui est devenu chercheur. Des personnes d'associations représentant les patients sont devenues eux-mêmes des chercheurs. C'est pour ça que dans la communauté dont on parle, on ne fait pas la différence, en fait. Qui est chercheur, qui est médecin ou infirmière, qui est représentante des personnes concernées. Peu importe. peu importe. Et pour donner un exemple, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça au Vietnam, où on travaille justement avec des réseaux de personnes concernées, en particulier des usagers de drogue, mais aussi des travailleuses du sexe et aussi des homosexuels. Eh bien, je peux vous dire que quand ils prennent la parole, moi personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils viennent du milieu médical ou s'ils font partie du milieu associatif.
Il y a un
associatif.
Niveau d'expertise qui est
incroyable. Il y a un niveau
incroyable.
De connaissance tel. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire marcher les programmes. Ce programme dont je vous parle chez les usagers de drogue au Vietnam, c'est grâce à eux qu'on arrive à atteindre justement les usagers de drogue. Les chercheurs seuls n'y arriveraient pas.
Avec aussi le diagnostic démédicalisé, c'est quelque chose aussi de très important pour atteindre justement les gens au plus près de leurs usages et de leur mode de vie.
Pour atteindre les gens et pour qu'ils puissent participer soit des programmes de recherche, mais aussi et surtout pour qu'il y ait une prise en charge et un suivi de leur prise en charge. Donc c'est quelque chose de critique aujourd'hui, la prise en charge communautaire, et qui doit se développer dans le monde entier, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de médecins et de personnel soignant au niveau mondial. Donc, il faut justement déléguer, et des délégations au niveau communautaire, c'est un élément clé, justement, pour le succès de l'accès à la prévention et aux soins.
Est-ce que les années qui passent, on l'a dit, plus de 40 ans de recherche, est-ce que les années qui passent en termes de recherche scientifique comme en termes de prise en charge, Françoise Barré-Sinoussi, vous rassure ou à l'inverse, a plutôt tendance à vous inquiéter?
C'est une question compliquée parce qu'à la fois elle me rassure dans le sens où je vois des orientations tant pour la recherche vaccinale que pour les traitements du futur qui sont prometteurs. Bien sûr, il faudrait qu'elles se confirment, mais il y a des stratégies tout à fait intéressantes.
Vous pouvez en citer pour donner ou ce serait trop compliqué
ça
ou alors
être un peu compliqué, mais je veux parler par exemple des analogies entre cellules tumorales et cellules qui portent le virus dormant. Chez les patients sous traitement et qui explique pourquoi les patients ne peuvent pas arrêter ce traitement.
Avec ces réservoirs de virus.
Et les réservoirs et les cellules tumorales ont des analogies. Et ben, grâce à ces observations et ces découvertes, on arrive aujourd'hui à avoir des stratégies similaires pour les traitements du cancer et pour les traitements de l'infection VIH.
Par exemple, quand on va vers l'immunothérapie ou ce genre de recherche.
Oui, tout à fait. En immunothérapie, il y a des essais en cours aujourd'hui, justement, pour essayer de diminuer la quantité des réservoirs viraux. C'est une approche, il y en a plein d'autres. Donc là, je suis plutôt optimiste. En plus, je vois de gros consortiums qui se mettent en place au niveau international avec plusieurs disciplines. Pas seulement des moyens financiers,
mais
aussi
et de recherche.
La collaboration entre les disciplines qui est tout à fait essentielle. Donc je suis assez optimiste. Par contre, là où je suis inquiète, c'est de voir que, par exemple, il y a des augmentations de la résistance aux antirétroviraux, aux médicaments actuels qui se développent soit en Afrique, soit sur le continent africain, soit également en Asie, au Vietnam, que je citais tout à l'heure, il y a 5 ans, chez les personnes nouvellement infectées, il y avait moins de 5% de résistance aux médicaments. 5 ans après, on en est à 15%. Ça me fait peur. Donc je me dis à la fois la recherche va dans le bon sens, mais il faut aussi qu'elle se dépêche maintenant parce qu'il y a des signes qui sont inquiétants.
Merci beaucoup. Merci infiniment Françoise Barré-Sinoussi de nous avoir fait partager vos découvertes, vos souvenirs, votre expérience et votre savoir dans Priorité Santé. Émission réalisée par Didier Bleu, préparée par Assetou Samaké, Baptiste Madinier et Ophélie Lassène. Et on va se séparer sur une musique qui vous fait vibrer, Françoise Barré-Sinoussi, Mozart, concerto pour piano numéro 21. Merci encore.
Côté Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.